RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. L'heure suivante, vous allez écouter Magazine culturel et Ma langue. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et son homologue de Vietnam discutent de la coopération maritime et celle de la pêche. DPR a demandé à Facebook de sévir contre une application qui a divulgué les données. Online single submission, soit la soumission unique en ligne, deviendra une grande réforme pour faciliter la permission des entreprises. IREDI et AIRIS Plus sont en engagement de l'Union européenne en faveur du marché unique de l'ASEAN. La détermination de Chiletu en tant que réseau des géoparcs mondiaux par l'UNESCO améliorera le tourisme de Java West. Et enfin, l'Indonésie s'efforce d'9 objets culturels sont légalisés par l'UNESCO. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, Retno Marsudi, et son homologue du Vietnam, Pham Binh Minh, ont discuté de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la marine et de la pêche. La troisième réunion conjointe de la Commission Indonésie-Vietnam s'est tenue à Hanoï, Vietnam, comme indiqué dans le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères, reçu mardi à Jakarta. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères d'Indonésie a affirmé que la pêche illégale de fruits de mer, illégale non déclarée sans papier, la pêche de IWN, constitue une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire d'un pays. Pour cela, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie invite le gouvernement vietnamien à renforcer la coopération dans la lutte contre la pêche IWN et à encourager une gouvernance durable des pêches. Répondant à l'invitation, le gouvernement vietnamien a promis de répondre immédiatement au projet de communiqué conjoint sur la pêche IWN qui a été soumis par l'Indonésie. En outre, la ministre des Affaires étrangères indonésienne et le ministre des Affaires étrangères vietnamien ont également discuté de la création de la zone économique exclusive entre l'Indonésie et le Vietnam, qui est l'une des questions qui sont encore en cours de négociation par les deux pays. La Commission 1 de la Chambre des représentants a demandé à Facebook de sévir contre les applications existantes dans les organisateurs de systèmes électroniques qui ont divulgué des données d'utilisateurs, en particulier en Indonésie. Cela a été dit par le vice-président de la Commission 1 de la Chambre des représentants, Satya W. Yuda, après la réunion audience publique avec la gestion de Facebook au complexe du Parlement Jakarta mardi. Il a demandé à Facebook de changer sa politique car jusqu'à présent, il n'y a pas d'action ou de pénalité pour l'application sur Facebook. Satya a déclaré que la commission de la Chambre des représentants a également demandé à Facebook de soumettre immédiatement les résultats de son audit relatif à la fuite des données, même s'il est actuellement légèrement perturbé parce que le bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni mène une enquête. Troisièmement, selon lui, la commission Indo-Parlement demande à Facebook de changer les paramètres par défaut parce que les utilisateurs indonésiens ne peuvent pas se permettre ou comprendre. Il contribue également à l'alphabétisation numérique de la société indonésienne en protégeant les données des utilisateurs de Facebook en Indonésie. Quatrièmement, selon le politicien du parti Golkar, la commission du Parlement a demandé à Facebook de se conformer aux lois en vigueur en Indonésie, y compris la loi sur la protection des données personnelles. Le président Joko Widodo a déclaré que la soumission unique en ligne va devenir un programme de changement à grande échelle dans le système de licence commerciale en Indonésie. Le système de licence, selon le président, sera mis en œuvre de manière intégrée du centre vers les régions. Lors d'une réunion limitée du cabinet au palais présidentiel Bogor-Jawa-Ouest, le président Joko Widodo a déclaré mercredi que le système de soumission unique en ligne réduirait la chaîne bureaucratique des tentatives de licence car il utilise un modèle d'enregistrement moderne. En outre, le président a également demandé à son personnel de s'assurer que la soumission unique en ligne peut être un système convivial, considérant que ce programme est un programme de réforme basé sur la technologie numérique.
Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat.
C'est une réforme en changement massif pour que toutes les autorisations du centre aux régions soient complètement intégrées et en utilisant un modèle d'enregistrement plus moderne et plus rapide avec des systèmes de données intégrés. Il n'est pas nécessaire de passer par de nombreuses chaînes bureaucratiques. En raison de cette réforme basée sur la technologie numérique, je demande que le système soit vraiment marche et directement utilisable et convivial pour ses utilisateurs. Le président Joko Widodo souhaite que l'application du programme puisse être soutenue par la main-d'œuvre plus responsive. Il est prévu que les services de délivrance de permis d'affaires, tant au niveau central que régional, puissent être encore améliorés. En outre, le président a également rappelé de soutenir le système de licence unique en ligne en simplifiant le processus de licence afin de compenser la vitesse des affaires et des processus d'affaires en conformité avec l'objectif de la soumission unique en ligne. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Francisco Fontan Pardo, lors d'une conférence de presse au secrétariat de l'ASEAN à Jakarta mardi 17 avril 2018, a déclaré que l'Union européenne s'engageait à soutenir l'intégration du marché unique de la communauté économique de l'ASEAN, CEA, 2025, à travers l'instrument du dialogue de l'ASEAN, ou IRED, et le renforcement de l'appui à l'intégration régionale de l'ASEAN de l'Union européenne, IRACE+. L'existence d'un marché unique, selon Fontan Pardo, peut être bénéfique non seulement pour les investisseurs de l'Union européenne, mais aussi pour les populations de l'Asie du Sud-Est. Selon lui, l'Union européenne, en tant que principal partenaire commercial de l'ASEAN, est le deuxième plus grand investisseur dans la région. L'Union européenne a intérêt à soutenir la mise en place d'un marché unique cohérent et stable en Asie du Sud-Est. IRED et ERAIS Plus s'appliquent à tous les membres de l'ASEAN. Cependant, l'Union européenne donnera la priorité à la mise en œuvre de ces deux programmes au Cambodge, au Laos, au Myanmar et au Vietnam. Selon l'Union européenne, les quatre pays ont besoin d'un soutien spécial parce qu'ils sont moins développés que les autres pays membres de l'ASEAN. Le géoparc Chiletu Jawa West a été autorisé comme une partie du réseau de géoparcs mondiaux dans la 204e séance de la Commission du Conseil exécutif de l'UNESCO à Paris, en France, le 14 avril 2018. le représentant de la délégation permanente de l'Indonésie pour l'UNESCO, la période 2015-2018, Fauzi Sulaiman, a déclaré qu'après un long processus, Cilotu a été déterminé comme géoparc mondial par l'UNESCO. Lors de la discussion sur la culture ayant pour thème le patrimoine mondial de l'Indonésie dans la diplomatie et l'interaction internationale, mardi le 17 avril, il a ajouté que le gouvernement provincial de Java West a construit l'infrastructure routière envers le géoparc Cilotu, Pelabuhan Ratu. Cet effort de construire de l'infrastructure est très apprécié par l'UNESCO. En outre, des universitaires de l'Université de Pajajaran ont également participé à diverses recherches liées à Cilotu et soutenu le processus de stipulation de Cilotu en tant que géoparc par l'UNESCO. La reconnaissance de l'UNESCO augmentera le tourisme dans la région.
Ya, kalau misalnya sesuatu situs sudah diakui oleh UNESCO.
Si quelques sites ont été reconnus par l'UNESCO, ils y mettent généralement l'emblème de géoparc. Ensuite, plus de gens viendront ici. Parce que si nous savons qu'il a été reconnu par l'UNESCO, généralement c'est bien. La gestion est également bonne, a été reconnue. C'est la place si nous avons déjà un label d'UNESCO. Fauzi a souligné qu'après la programmation de Wakatobi Men and the Biosphere par l'UNESCO, le nombre de visites a considérablement augmenté. Il a rappelé que le futur défi consiste à créer un tourisme durable. Selon lui, les choses concernant la propriété et la durabilité de la nature deviendront l'attention de l'UNESCO à l'avenir. En plus des géoparcs Cilotu, à la même réunion a également déterminé le Mont Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara West, comme le géoparc mondial. Auparavant, géoparc Batur à Bali et géoparc Gunung Sewu. À l'avenir, Caldera Toba sera nommé réseau de géoparcs mondial. L'Indonésie s'efforce que 19 objets culturels qui ont été inclus dans la liste provisoire du Centre culturel mondial de l'UNESCO pouvaient être légalisés bientôt par l'UNESCO. L'une des listes provisoires est Kota Tua ou la vieille ville et les îles de Nerus, de Kelor, de Cipir et de Bidadari qui doivent être étudiés à nouveau en raison de certaines contraintes comme la conservation des bâtiments dans la zone de vieille ville. C'est ce qu'a affirmé le directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle du ministère de l'Éducation et de la Culture, Najamuddin Ramli, à Jakarta, lundi. La vieille ville et les îles environnantes sont proposées comme patrimoine d'objets qui sont les routes commerciales du VOC. Selon Najamuddin Ramli, si ces objets veulent être reconnus par l'UNESCO, l'authenticité de la relique doit être maintenue. Par ailleurs, le directeur du département de l'histoire mondiale du ministère coordinateur du développement humain et de la culture, Duhado Pakpahan, a déclaré que la reconnaissance de la culture indonésienne en tant que patrimoine mondial sera la fierté de la nation. Actuellement, l'Indonésie a 17 cultures, 4 ressources naturelles, 4 objets culturels et 9 cultures immatérielles qui ont été reconnues par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Serviteur, c'est le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire ayant pour le titre « La tendance de l'augmentation de l'indice de développement humain ou IPM en Indonésie ». Le Bureau central des statistiques indonésiens ou BPS a révélé lundi 16 avril que l'indice indonésien de développement humain ou IPM avait atteint 70,81 points en 2017, soit une augmentation de près d'un % par rapport à l'année précédente. Du point de vue de la tendance, l'indice de développement humain augmente en Indonésie chaque année. En 2015, il était encore inférieur à 70. En 2016, il a augmenté à 70,18 et en 2017 à 70,81. Le chef du BPS, Suharyanto, a déclaré que l'indice de développement humain memiliki PM di Indonesia est actuellement inclus dans la catégorie élevée. Cependant, il existe encore des inégalités importantes, notamment entre Jakarta et la Papouasie. Le calcul de l'IPM est compilé en trois dimensions, à savoir la santé mesurée par l'indicateur d'espérance de vie, ensuite la connaissance ou l'éducation mesurée par les attentes et la durée moyenne de la scolarité, la dernière est la dimension de la vie décente approchée en fonction des dépenses par habitant. Par ailleurs, Christophe Bahoué, directeur du programme de l'ONU pour le développement PNUD Indonésie, a déclaré que l'augmentation de l'IPM en Indonésie montre qu'il y a beaucoup de progrès qui a atteint. La prochaine étape vers un développement humain élevé est l'inclusion et la réduction des lacunes, surtout pour les provinces éloignées et entre les hommes et les femmes. Pour le gouvernement, le rapport du BPS sur l'augmentation de l'IPM est assez encourageant, parce que cela signifie que la politique de Nawacita qui a été appliquée a donné une coloration significative. Malgré cela, les devoirs du gouvernement attendent encore, c'est-à-dire accélérer l'égalité de développement, en particulier dans l'est de l'Indonésie. L'indice de croissance humaine est étroitement lié aux objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. L'Indonésie elle-même le soutient avec la sortie des règlements présidentiels sur la mise en œuvre du développement durable en juillet 2017, lié étroitement avec le développement de l'Indonésie, non seulement physique mais aussi non physique, qui se trouvera dans l'indice de développement humain. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 19 avril 1953, l'homme d'État indonésien Kiai Haji Abdul Wahid Hashim est décédé à Cimahi, Japawes. Il était le ministre dans trois cabinets, tels que le cabinet Hatta, le cabinet Nasir et le cabinet Sukiman. Il est aussi le membre de BPUPKI, un comité pour la préparation de l'indépendance indonésienne. Il est le père du défunt du quatrième président de la République d'Indonésie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ou Gus Dur. Il est mort dans un accident de voiture en Japawes. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim est décerné le titre de héros national par le gouvernement. Le 19 avril 1962, l'anniversaire de Hansip ou la défense civile. Le 20 mai 1960, l'Indonésie était officiellement membre de l'Organisation internationale de la défense civile ou International Civil Defense Organization, qui a inspiré deux ans plus tard la fondation de l'Organisation nationale de la sécurité civile en Indonésie le 19 avril 1962. HANSIP, l'abréviation de Pertahanan Sipil ou la sécurité civile, est l'unité de défense qui se lance aux villages, districts, quartiers ou spécifiquement les petites parties de la ville. Avec l'entraînement de l'armée militaire indonésienne, HANSIP est responsable de la sécurité et du service public dans l'échelle plus petite que l'armée. HANSIP travaille sous la supervision du gouvernement local. Depuis 2002, HANSIP a changé le nom à LINMAS, l'abréviation de Perlindungan Masyarakat ou la sécurité publique, qui s'agit également à service d'urgence et de sauvetage lors d'une catastrophe. Le 19 avril 1971, la première station spatiale habitée, l'URSS, après son échec dans la conquête de la Lune, développe un programme de station orbitale et lance la première station occupée par un équipage humain, Salyut Eng. L'être astronaute qui occupe la station du 7 au 30 juin ne rencontreront pas vivant à cause d'un accident de pressurisation. Le programme Salyut achèvera en 1986 après 813 jours d'occupation humaine et plus de 2500 expériences scientifiques. Jérémy, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Le Géoparc Ciletuh est désigné comme Géoparc mondial de l'UNESCO. Le Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu est officiellement désigné comme faisant partie du réseau mondial de géoparcs mondiaux ou géoparc mondial de l'UNESCO. C'est une nouvelle histoire pour le monde du tourisme à Java West. Cette nouvelle a été prononcée par le gouverneur de Java West, Ahmad Heriawan, lors de l'événement Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu funded toward UNESCO Global Geopark à la place de Palangpang, au village de Ciwaru, au sous-district Tiamas, en région Sukabumi, dimanche. Ahmad Heriawan a déclaré que, outre Ciletuh, l'UNESCO a également autorisé 12 géoparcs de 11 pays en tant que géoparc mondial de l'UNESCO. La ratification a eu lieu à la 204e séance du Conseil exécutif de l'UNESCO, la Commission du programme et des relations extérieures, jeudi, à Paris, en France. Deux d'entre eux sont ordinaires d'Indonésie, à savoir Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu et Géoparc Rinjani en province Nusa Tenggara West. Ahmad Heriawan a dit d'avoir reçu la nouvelle du directeur du Bureau du tourisme et de la culture de la région de Sukabumi, M. Budiman, en tant que représentant de Java West dans la science. Le processus de la détermination de Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu d'être réseau mondial de géoparcs de l'UNESCO est assez rapide. Habituellement, le processus est pris 10 ans après la détermination d'être géoparc national. Ahmad Heriawan a dit qu'il y avait 3 ans, le Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu a été désigné géoparc national par le gouvernement central est directement soumis à l'UNESCO en tant que géoparc mondial de l'UNESCO et il a été accepté. La soumission du certificat de Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu au titre géoparc mondial de l'UNESCO sera effectuée en septembre 2018. Le certificat sera donné conjointement au Portugal. Ahmad Heriawan a déclaré que cela faisait partie de l'engagement du gouvernement provincial de Java West de continuer à développer des destinations touristiques dans cette province. À cette fin, il a demandé l'engagement de toutes les parties, qu'il s'agisse de l'appareil gouvernemental, des provinces ou districts, des parties prenantes et de la communauté, afin de maintenir les destinations touristiques existantes, notamment la principale exigence du Géoparc international et la préservation de la géodiversité, de la biodiversité et de la diversité culturelle. Pour le Géoparc Ciletuh Pelabuhan Ratu, le gouvernement provincial de Java West a dépensé 96 milliards rupiah en 2016 pour tronçon routier entre l'entrée de Waluran au Géoparc. En 2017, la route est construite de l'entrée de Loji au Géoparc en dépensant 217 milliards rupiah. Ahmad Heriawan a déclaré que cette année, le gouvernement de Java West a ajouté 90 milliards rupiah supplémentaires pour construire une route vers la zone de Géoparc depuis la direction de Paltiga. Le gouvernement central a également préparé la construction de l'aéroport à Sukabumi parce que l'une des exigences du Géoparc international, il devrait y avoir un aéroport près de Géoparc avec une distance maximale de 3 heures de voyage. Chers amis, c'était Molirnesi de la Voix de l'Irnésie à Jakarta.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Irnésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Magazine Culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Rendang, un plat typique de viande de Minangkabau. Rendang est l'un des plats traditionnels de Minangkabau, Sumatra Ouest, qui utilise la viande et le lait de coco comme ingrédient principal avec des épices. Cette cuisine épicée est populaire parmi toutes les personnes et peut être trouvé dans tous les restaurants de Padang en Indonésie, en Malaisie ou d'autres pays. Rendang est bien connu dans toute l'Indonésie et même les délices sont venus au monde international. Cela est démontré par l'établissement de rendang Sumatra Ouest comme la nourriture la plus délicieuse au monde par une enquête menée par CNN. Même un burger restaurant a fait burger de rendang en 1987. La cuisine est plus connue sous le nom rendang Padang, alors que rendang est la cuisine typique de Minangkabau en général. L'histoire sur rendang, comme la cuisine typique de Minang, a été écrite au début du 19e siècle. Mais selon l'historien de l'Université de Andalas, Padang, Gusti Asnan, rendang existe environ depuis le 16e siècle. Cette cuisine peut être stockée pendant des mois. Il est également mentionné dans la littérature classique malaise comme Hikayat Amir Hamzah. Ce qui prouve que rendang a été connu dans la cuisine malaise depuis les années 1550 ou au milieu du 16e siècle. Rendang est de plus en plus célébré grâce à la culture d'errance de la tribu Minangkabau. Les Minang qui vont à l'étranger, en plus de travailler comme les employés ou les commerçants, un grand nombre d'entre eux ouvrent les restaurants de Padang dans tous les pays, y compris aux pays voisins, en Europe et aussi en Amérique. Le restaurant Padang qui introduit rendang et d'autres plats Minangkabau largement. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
لا La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Langue, comédie de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Gorontalo afin de connaître plus le Loang, la langue Suawa. La langue Suawa est l'une des langues les plus anciennes en Indonésie. La langue Suawa a été employée par les gens de Suawa depuis l'an 300 avant le Christ. Les gens qui sont des membres du royaume Suawa ont même appelé Tiombu ou les ancêtres des autres royaumes à Gorontalo et aux régions avoisinantes. Voyant la position de la société Suawa comme ancêtre ou pionnier, la langue Suawa devrait avoir une position importante à Gorontalo. Cependant, un certain nombre d'études indiquent l'existence d'une marginalisation en langue Suawa. Cette marginalisation se produit dans divers environnements, dont l'école. À l'école, les matières pour les langues régionales enseignent seulement la langue Gorontalo, pas Suawa. Ensuite, il y a une inquiétude que la condition pourrait rendre la prochaine génération de Suawa moins familière avec la langue Suawa. C'est quelques exemples de mots dans la langue Suawa. Polango. Polango, en français, avoir faim. Mokaraja. Mokaraja, en français, travailler. Lomo. Lomo, en français, sourire. Doi. Doi, en français, argent. Modigo. Modigo, en français, apporter. Chers amis, c'est l'exemple des phrases en langue Suawa. Waku sambe polango tia tuguta jaugina mokaraja. Waku sambe polango tia tugata jaugina mokaraja. En français, j'ai très faim, donc je ne peux pas travailler. Ota iomo sababu no kotapu dodoi. Ota iomo sababu no kotapu dodoi. En français, il a souri pour de l'argent. Ota digo buku ado sikola. Ota digo buku ado sikola. En français, il a peur des livres à l'école. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît écrivez-nous à voi@voinews.id. voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia, The Voice of Indonesia et Twitter @voinews. Indonesia @voinndonesia. C'était le programme Ma langue, comédia de préserver la diversité des langues locales en indonésien.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voynews.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, je vous présente des chansons pop chantées par Bob William Tutupoli. On écoutera la première chanson intitulée Kerinduan. Bonne écoute. Bob Sutupoli est né à Surabaya, Java Est, le 13 novembre 1939. Il aime chanter depuis son enfance. Il a commencé à chanter pour obtenir l'argent de poche supplémentaire à l'adolescence. Il est un chanteur indonésien célébré dans les années 70. Il a enregistré son premier album à Jakarta en 1965 avec Petit Sister. Il est célébré après avoir chanté une chanson intitulée Widuri créée par Slamet Adriadi. Il a également joué dans des films et en présentateur de diverses stations de télévision. Bob a aussi enregistré des chansons traditionnelles des Moluques comme par exemple Mandé Mandé et Souli. Il a commencé à enregistrer à Jakarta en 1965 avec Petit Bersaudara. L'une des chansons popularisées par Bob dans les années 70 intitulée Tinggi Gunung Seribu Janji. Bon, chers amis, on écoute la chanson suivante de Bob Tutupoli intitulée Tinggi Gunung Seribu Janji. Bonne écoute.
Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula. Terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Aku pergi takkan lama, hanya satu hari saja. Seribu tahun tak lama, hanya sekejap saja, kita akan berjumpa pula.
Cerita setelah chanson de Bob Tutupoli intitulé Tinggi Gunung Seribu Janji. Bob a également chanté à TVRI, la télévision nationale et d'autres endroits. Enteng Panama, le leader de band Pancanada, a invité Bob à enregistrer des chansons de Noël avec le duo Petit Aremako. Depuis ça, il a commencé à être populaire en Indonésie. Bob n'est pas seulement apparu dans le pays, mais aussi en Malaisie, à Singapour et Hong Kong. Dans l'année 1966-1969, il a remporté le titre de la diffusion d'Abri. En outre, il a également reçu des disques d'or ou plaqués d'or. Bob Tutupoli est aussi l'ambassadeur culturel chargé d'amener les arts de l'Indonésie en Asie et au niveau international. Bob a également déguisé le groupe des arts des Moluques dans plusieurs villes aux Pays-Bas en 1985 et 1988. Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, écoutons maintenant les dernières chansons intitulées « Jangan pernah berkata » et « Widuri », toutes les deux chantées par Bob Tutupoli. Bonne écoute et à demain!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voines.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Telah ku kenal nama besarmu, semua bibir mengisahkan itu. Engkau pembela kaum wanita, menempuh derita. Walaupun kini telah tiada, tetap berkobar di dalam dada. Apa yang kau ajarkan semua demi derajat bangsa. Kartini, namamu terukir di dalam hati, dalam berjuta. Hanya engkaulah satu, oh Kartini. Kau menjunjung tinggi bangsaku, engkaulah teladan abadi.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.